Mandrin. Deuxième partie, chapitre 11. Un orage de palais. Nicole n'avait paru nullement troublée par la subite apparition du fermier général. Elle le considérait, au contraire, avec un air de tranquille ironie. Et d'une voix très calme, elle reprit. « Vous me demandez, monsieur, ce que je fais ici ? Croyez que je n'éprouve aucune peine à vous répondre. Je vais rejoindre mon mari. »«
Votre mari ? »
s'exclamait M. d'Hérigny. « Mais oui, mon mari, » appuya Nicole, dont les jolis yeux clairs pétillaient de malice.
« Il me semble que c'est moi !»
insinuait le financier, de plus en plus éberlué par cette attitude. « Vous vous trompez, monsieur, » reprenait Nicole. « Je ne suis pas, et je n'ai jamais été votre femme. »«
Que signifie ? » ?»«
Je suis, devant Dieu et devant les hommes, l'épouse légitime du capitaine Mandrin. »
« Quelle est cette ridicule plaisanterie ?»«
Je ne plaisante pas du tout, monsieur. Le soir même où j'ai quitté le château des Aigles, le bon curé de Beaujeu bénissait notre union de ses vénérables mains dans la chapelle du château de Saint-Barnabé. »«
Mais nous, »
objectait le fermier général. « Nous ?» riposta Nicole. « Cela ne comptait pas. »«
Comment cela ne comptait pas ?»«
Le prêtre qui nous a unis n'était pas un prêtre. »
« C'est impossible !»«
C'était Mandrin en personne. »«
Mandrin ?»«
Oui, Mandrin, assisté de ses deux meilleurs lieutenants. »« Je suis prête, si vous l'exigez, à vous en donner la preuve. » À la façon dont Nicole s'exprimait, Bourré d'Hérigny comprit qu'elle parlait sérieusement. Cruellement ulcéré de sentir lui échapper à tout jamais celle qui lui avait inspiré la plus grande passion de sa vie, outré d'avoir été berné par le contrebandier et furieux du rôle ridicule qu'il avait joué dans toute cette aventure, le fermier général s'écria d'une voix éclatante
« La justice ne tardera pas à me venger de cette sanglante injure, et votre mandrin sera bientôt roué vif. »
À ces mots, un murmure nettement désapprobateur s'éleva d'un groupe de buveurs attablés dans la salle. Paysans, rouliers, colporteurs, artisans, tous fanatiques du grand révolté dont ils connaissaient, approuvaient et admiraient sans restriction les retentissants exploits. Sans prendre garde à cette petite manifestation, qui aurait dû cependant l'avertir qu'il n'était pas précisément entouré d'une atmosphère sympathique, Bourré d'Hérigny, n'écoutant que sa colère, scandait avec un accent de haine féroce
« Oui, rouez vif, rouez vif. Et vous, je me charge de vous faire enfermer dans un couvent. Vous m'entendez ? Dans un couvent jusqu'à la fin de vos jours. »
Nicole, toujours aussi maîtresse d'elle-même, ripostait « Pas plus que je n'ai à redouter d'être cloîtrée, Mandrin n'a à craindre un pareil supplice. »«
C'est ce que nous verrons. » »«
C'est tout vu. » Et par la raison bien simple que le roi a fait grâce à Mandrin.
« Allons donc, le roi a fait grâce à Mandrin !» répétait le financier avec un rire sarcastique. « Ah ça, vous me prenez donc pour un imbécile !»«
Et moi, pour une menteuse ?»«
Il n'est pas possible que sa majesté ait laissé surprendre sa bonne foi au point d'absoudre un aussi abominable criminel. »
« Cela est pourtant, ainsi que tous ses compagnons. »
Je ne vous crois pas.
Mandrin gracié. Louis XV, si grande soit sa faiblesse, n'a pu prendre une décision pareille. Il l'a prise.
Je vous répète que c'est impossible.
Et si je vous mettais sous les yeux l'ordre signé par le roi ?
Je vous en défie.
Le voici, déclarait Nicole, en montrant à Bourré l'arrêté royal qu'elle avait pris dans son corsage. Et tout en le gardant entre ses mains, elle ajouta « Lisez !» Tremblant de colère et d'épouvante, le fermier général parcourut des yeux le document libérateur et, hors de lui, il voulut l'arracher à Nicole. Celle-ci, d'un bond, avait mis entre elle et lui le rempart d'une table. Perdant tout à fait la tête, Bourret voulut se précipiter sur elle, mais les buveurs qui avaient suivi cette scène avec un intérêt sans cesse croissant se levèrent brusquement, et l'un d'eux, un grand gaillard à la carrure athlétique, empoignant le financier par le bras, le secouait furieusement tout en le menaçant.
« Si tu ne laisses pas cette jeune dame tranquille, c'est à moi que tu vas avoir affaire. »«
À la porte !» clamaient les autres buveurs que le patron de l'hôtellerie cherchait en vain à apaiser.
« Oui, à la porte, dehors !»
Ce fut une irrésistible poussée qui, en un clin d'œil, conduisit rudement jusqu'au seuil le financier, qui avait immédiatement senti que toute résistance de sa part ne pouvait que lui être funeste. Et brutalement, la porte se referma sur lui, tandis que les bonnes gens de l'auberge, entourant Nicole, la félicitaient et lui déclaraient qu'ils étaient tous prêts à monter une garde vigilante autour d'elle. Bourret d'Hérigny ne s'attarda pas dans la cour. Après avoir réclamé son cheval à un valet d'écurie, il prit le parti d'aller chercher un gîte ailleurs, et il ne tarda pas à conclure que le plus urgent était de gagner en toute hâte Fontainebleau et d'obtenir que Louis XV révoquât l'ordre de grâce que Nicole, sans doute puissamment aidée par la marquise de Pompadour, avait si habilement réussi à arracher à sa nonchalante et coupable indifférence. 3 jours après, le marquis d'Argenson, qui avait suivi la cour à Fontainebleau, prenait connaissance, en compagnie de son secrétaire, du volumineux courrier qui lui parvenait chaque jour. Parmi les dépêches qui encombraient son bureau, il en était une qui avait d'autant plus retenu son attention qu'elle lui était tout particulièrement agréable. C'était le dernier message du colonel Lamorlière. Il était ainsi conçu. « J'ai achevé de grouper mes forces. Mes argoulés paraissent dans une forme excellente, et je crois pouvoir affirmer à votre excellence que la capture de Mandrin n'est plus qu'une question d'heure. »
Le lieutenant de police ignorait donc encore la sanglante défaite que Mandrin avait infligée au colonel. Il n'était d'ailleurs pas plus au courant de la mesure de clémence que le roi avait prise en faveur du révolté. Louis XV, en effet, suivant son principe de remettre toujours au lendemain les affaires sérieuses et redoutant, non sans raison, les remontrances que ne manquerait pas de lui adresser son ministre, avait prié la marquise de Pompadour de garder le silence le plus absolu sur toute cette affaire. Loin de regretter de s'être laissé convaincre par Nicole et par la favorite, Louis XV, qui avait toujours eu un goût particulier pour les tractations secrètes, considérait au contraire qu'il avait accompli en l'occasion un acte de très fine diplomatie et se réjouissait d'avance de la figure déconfite du marquis d'Argenson lorsqu'il lui annoncerait la soumission de Mandrin et de ses camarades et qu'il lui ferait constater qu'il avait réussi, avec une simple signature, à mettre fin à une agitation que les mesures violentes n'avaient fait qu'aggraver. Tant pis si les fermiers généraux se permettaient quelques criailleries, n'avait-il pas le moyen de leur clore le bec en leur disant « Qu'avez-vous à réclamer, puisque je vous ai débarrassé par la clémence d'un ennemi que vous n'avez pu réduire par la force ?» Et Louis XV concluait « De cette façon, je donne satisfaction aux fermiers généraux en leur accordant désormais toutes les facilités dont ils ont besoin pour percevoir les impôts, au peuple en n'immolant pas son idole, et aux philosophes qui, pendant quelque temps au moins, me laisseront la paix. » Somme toute, ce n'était point trop mal raisonné, mais le bien-aimé avait compté 100 Bourret d'Hérigny, d'autant plus acharné à frapper Mandrin qu'il ne s'agissait plus seulement de ses intérêts financiers, mais que son orgueil et son honneur exigeaient une réparation aussi prompte qu'éclatante. Bourret d'Hérigny était décidé à jouer la partie jusqu'au bout, dût-il y laisser son privilège, sa fortune, sa liberté et même sa vie. en arrivant à Fontainebleau, sans même prendre le soin d'essuyer la poussière qui recouvrait ses vêtements, il faisait demander au lieutenant de police une audience pour une affaire d'une urgente et exceptionnelle gravité. Et M. d'Argenson, surpris de l'arrivée inopinée du fermier général, qu'il croyait toujours en Dauphiné, en train de diriger les opérations contre Mandrin, ordonna qu'on l'introduisît immédiatement en sa présence. À la vue du financier, dont les traits ravagés et la fièvre du regard révélaient l'état d'âme mieux encore que le désordre de son costume, le lieutenant de police eut aussitôt l'intuition qu'une catastrophe venait de se produire. Et, d'un ton anxieux, il interrogea.
« Monsieur le fermier général, vous nous apportez donc de fâcheuses nouvelles ?»
D'une voix saccadée, M. d'Hérigny répliquait. « Plus mauvaise encore, Excellence, que vous ne pouvez vous l'imaginer !» D'un geste bref, M. d'Argenson congédia son secrétaire. Puis, seul en face de Bourret, il invita.
« Parlez,
monsieur le lieutenant de police, » déclarait le financier. « Nous venons d'éprouver un terrible échec.
Que m'apprenez-vous là ?
Mandrin a battu la Morlière à plate couture.
« Cependant, objectait le lieutenant de police, j'ai là un rapport de cet officier qui m'annonce la prochaine capture de Mandrin.
Le colonel Lamorlière a vendu la peau de l'ours avant qu'elle fût à terre, répliquait le fermier général. En effet, dimanche dernier, au village de Guéra, à la suite d'une terrible bataille où il a perdu une bonne partie de son effectif, il n'a dû qu'à une prompte retraite de ne pas être fait prisonnier. Cette éclatante victoire du bandit, dont la nouvelle s'est répandue dans toutes les provinces du Sud-Est, a achevé d'enthousiasmer nos ennemis, ainsi que tous ceux qui s'obstinent à considérer Mandrin comme un libérateur. La véritable armée que commande ce misérable se grossit de jour en jour de recrues importantes, et nos espions affirment que Mandrin se prépare à s'emparer de Grenoble et à y installer un gouvernement dont il se fera proclamer le chef.
« Ah, voilà qui devient singulièrement inquiétant !» opinait M. d'Argenson.
« Et voilà pourquoi, déclarait Bourret d'Hérigny, je n'ai pas hésité un seul instant à me rendre à Fontainebleau pour vous exposer une situation rendue plus grave encore par une mesure qu'a cru devoir prendre Sa Majesté.
Que voulez-vous dire ?
Le roi a signé la grâce de Mandrin. À ces mots, M. d'Argenson, malgré tout l'empire qu'il avait sur lui-même, se dressa d'un bond et, le visage empourpré, il s'écria
« Qui a pu vous conter une pareille sornette ?»«
J'ai vu, de mes yeux, scandait le financier, l'ordre de grâce entre les mains d'une femme dévouée corps et âme à Mandrin.
Cet ordre ne peut être qu'un faux.
Il porte au contraire toutes les marques de la plus rigoureuse authenticité.
Cependant, observait le lieutenant de police, Sa Majesté ne m'en a rien dit, et je ne puis croire qu'elle ait agi de la sorte sans m'en prévenir et sans même me demander mon avis.
Je ne doute pas, martelait le fermier général, que le roi n'ait envers vous, qui le servez fidèlement, la plus entière confiance et la plus parfaite estime. Mais permettez-moi de vous rappeler, Excellence, que si grande soit votre influence auprès de Louis XV, il en est une autre contre laquelle rien ne saurait prévaloir.
Celle de la marquise ?
Précisément. Et quand je vous aurai dit que la femme qui a remporté triomphalement en Dauphiné l'ordre de grâce n'est autre que la cousine de la favorite, c'est-à-dire la misérable qui s'est jouée de moi en se faisant enlever par Mandrin le soir même de notre mariage, vous comprendrez, monsieur le lieutenant de police, comment Sa Majesté s'est si facilement laissée fléchir et pourquoi elle a, devers vous, observé un si complet silence. À présent, aucun doute ne pouvait subsister dans l'esprit de M. d'Argenson. C'était bien Mme de Pompadour qui, soit par affection pour sa cousine, soit pour apporter un geste d'apaisement au peuple, dont elle se savait haïe, avait sinon ourdi, mais tout au moins favorisé, ce véritable complot. Et
il ne se dissimulait pas que, pour faire revenir le roi sur sa décision, il allait avoir fort à faire. Mais M. d'Argenson était doué d'une volonté et d'une énergie qui lui permettaient de ne jamais reculer quand il s'agissait de défendre l'État. Aussi n'hésita-t-il pas un instant sur son attitude, et, d'un ton ferme et décidé, qui parut de bon augure à M. d'Hérigny, il fit « Veuillez attendre ici, monsieur le fermier général, je vais trouver le roi. Tout ce que je puis vous dire, c'est que si je ne reviens pas de son cabinet avec un ordre de révocation, un autre que moi se chargera d'assurer la sécurité du royaume. »